L'euro retombe à 1,2966, alors que l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne s'est à nouveau détérioré en avril pour tomber à son plus bas niveau depuis septembre 2003. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 433$. Voilà Jacqueline, je vous redonne le CAC 40, moins 0,16% à 3974 points à la Bourse de Paris. Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, 100 ans après la naissance du Parti Socialiste, celui qui en fut le fondateur, Jean Jaurès. Quels que soient les dissentiments, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les polémiques, entre socialistes, on se retrouve toujours. Jean Jaurès à Lille, le 26 novembre 1900. Ans d'histoire. Sans jamais avoir dirigé un gouvernement, ni même été ministre, Jean Jaurès est une des figures les plus célèbres de l'histoire de la France contemporaine, et on ne compte plus les rues, les avenues ou les lycées qui portent son nom. Né à Castres en 1859, dans une famille où l'on ignorait tout de la condition ouvrière, cet intellectuel bourgeois n'était pourtant pas prédisposé à devenir un jour le représentant le plus connu d'un parti socialiste qui célèbre aujourd'hui son 100e anniversaire. En créant la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, le 25 avril 1905 à Paris, Jean Jaurès réalisait la promesse qu'il avait faite 12 ans plus tôt aux mineurs de Carmaux, lorsqu'en 1893, il l'avait choisi pour être le candidat d'un mouvement socialiste alors profondément divisé.
Le mouvement socialiste aujourd'hui en France est divisé en sectes qui s'affrontent. Si vous m'en donnez mandat, je bâtirai avec vous l'unité de tous les socialistes dans un seul et même parti démocratique. Si vous me désignez comme votre candidat, je serai l'homme de cette unité, du rassemblement des exploités, de ceux qui n'ont rien, des laissés pour compte. Je serai l'homme de l'unité socialiste contre tous les partis bourgeois.
On va passer au vote. Qui est pour Jean Jaurès? Oui. Et une écrasante majorité, Jean Jaurès. Tu es élu candidat de notre circonscription.
Ouais. Jean-Pierre Rioux, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était l'extrait d'un beau téléfilm de Jean-Daniel Verrecq, Jaurès, la naissance d'un géant, qui sera diffusé ce soir sur France 2, le moment où en Jean Jaurès, aux élections 1893, était donc désigné comme candidat socialiste de Carmaux, avant de devenir évidemment une des figures les plus importantes de la gauche française. Ce qui peut paraître étonnant, vous le rappelez dans la biographie de Jaurès que vous venez de publier chez Perrin, il n'était pas né socialiste, et on peut dire que son adhésion d'une certaine manière au socialisme en 1893, c'est un peu une conversion.
Conversion est peut-être un mot un peu fort, mais car il est déjà, je dirais, intellectuellement, humainement, affectivement socialiste. Il a écrit beaucoup, il le dit, notamment dans le journal où chaque jour il donne un papier, pratiquement dans la dépêche de Toulouse. Mais il se trouve que c'est vrai que c'est à Carmaux qu'il a trouvé, je dirais, une sorte de confirmation ouvrière avec les mineurs et leur combat républicain et social pour effectivement devenir socialiste accompli.
Parce que par sa famille, qui était plutôt de la petite bourgeoisie, c'est vraiment pas... Il était même très attaché, d'une certaine manière attaché à la religion. Il s'est marié religieusement. Il a même eu des problèmes avec les socialistes à cause de la première communion de sa fille. C'est quand même un socialiste atypique, disons.
Non, peut-être pas, parce qu'il faut bien le devenir socialiste, il faut bien sortir de quelque chose, surtout à l'époque où on n'a pas un héritage, une tradition, une famille et un milieu déjà très 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 soudé. Non, mais effectivement, Jaurès, c'est d'abord un très solide enfant du Tarn, hein, n'oublions jamais ça. Il a un sens très profond de sa petite patrie tarnaise. Il sait parler encore patois. Il sait dire ce qu'il faut sur un champ de foire et pour en un homme politique, c'est assez important. Il adore les campagnes électorales, il adore la controverse, l'empoignade, le raisonnement, la discussion. Grand talent d'orateur. Inutile de le dire, et très tôt. C'est quand même le gamin qui a 14-15 ans que harangue ses petits camarades et leur explique comment il faut raisonner et comprendre le monde. Mmh. Hein. Et il a continué étudiant à l'école normale, etc., etc.
Brillant, très brillant élève.
Très brillant, donc c'est
anormal. Le premier à l'école normale de la rue d'Ulm, le premier avant Bergson, hein, c'est la même promotion.
C'est un
troisième à l'agrégation de philosophie.
Oui, ses parents n'ont pas le sou. C'est une famille bourgeoise, c'est vrai. Il a un oncle amiral, notamment, mais qui sera ministre même, mais désargenté. Cher Jeannot est d'abord aussi un enfant de l'école, un enfant de la méritocratie républicaine.
Boursier, c'est pour ça qu'il est attaché à la République.
Concours, examen, école normale, ouais. Professorat, etc.
Et alors, quand il entre dans la politique, assez jeune, hein, en 1885, c'est pas pour devenir député socialiste, il devient député républicain modéré. Il vote, par exemple, ce qu'on appelait les opportunistes à l'époque. Il vote, par exemple, pour l'expédition coloniale en Indochine, pour le budget des cultes, contre l'impôt sur le revenu. Donc, c'est vraiment pas un révolutionnaire.
Certes non. Il va à la politique, dit son tonton amiral, comme le canard va à l'eau, n'est-ce pas ? Parce qu'il adore parler, parce qu'il adore convaincre, parce qu'il adore raisonner, parce qu'il a des idées sur l'avenir et le progrès de l'humanité. Il ne pouvait guère être autre chose. Il est patriote, il admire Gambetta, il est républicain très modéré, il aime beaucoup Jules Ferry, il lui pose des questions très insolentes en lui disant, monsieur, il le prend dans un coin à la chambre, il dit, monsieur Jules Ferry, et pas du tout cher camarade, monsieur citoyen, Jules Ferry, qu'est-ce que c'est votre idéal? Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de la France? Et de ce pire, Jules Ferry est un peu désorienté, mais je pense que c'est même dit dans le film ce soir. Jaurès, donc là, ne peut pas être socialiste, puisqu'au fond, il n'y a pas de socialiste. Il y en a trois ou quatre, parfaitement débiles d'ailleurs, dans cette législature 85-89, et Jaurès est assez effrayé même par ces zèbres-là.
Alors socialiste, il va le devenir quand même, lorsqu'en 1892, les mineurs de Carmaux se mettent en grève parce qu'un des leurs, le maire socialiste de la ville, est licencié par le propriétaire des mines de Carmaux, le marquis de Solages.
Je suis maire de Carmaux depuis 2 mois, monsieur le directeur. La loi reconnaît aux élus du peuple le droit à des congés pour exercer leurs fonctions. Je les ai pris.
Ici, la loi est celle de la compagnie, celle du marquis de Solages. La mairie ou les mines, vous avez choisi. Nous aussi. Vous êtes licencié, monsieur Calvignac. À cette minute, vous ne faites plus partie de notre personnel.
La République ne veut pas tolérer un tel déni de justice.
L'espoir fait vivre.
Hier, dans la dépêche, vous avez écrit... Non mais regardez ce que vous avez écrit. Le compromis doit l'emporter sur la lutte des classes. Il faut une conciliation. Eh bien moi, je ne crois pas à la collaboration sociale. Je crois à la lutte des classes. Voilà ce qui nous sépare, citoyens.
Et c'était un autre extrait du film qui sera diffusé ce soir, sur France 2, le film de Jean-Daniel Verreg, Jaurès, la naissance d'un géant, et une socialiste de Carmaux vient de l'entendre, apostrophant Jaurès parce qu'elle le juge trop modéré, mais qui va prendre ardemment parti pour la défense de ses mineurs. Hein. On dit que c'est ça, au fond, c'est là le grand tournant, au fond, dans la vie de Jaurès, Carmaux.
Oui, mais il faut rappeler quand même que c'est une empoignade et une élection où l'essentiel, c'est comment un ouvrier devenant maire d'une commune peut trouver le temps, je dirais, d'exercer normalement ses fonctions de maire. Ce que le marquis de Solages ne comprend pas, il est censé Calvignac. Donc la bataille n'est pas du tout un choc de classe, n'est pas du tout une grève pour, je ne sais pas, le salaire ou les conditions de travail. C'est une bataille assez strictement républicaine. Et là, évidemment, Jaurès, républicain de souche, déjà avec de l'expérience, il est en même temps, il était à ce moment-là déjà adjoint au maire de Toulouse, n'est-ce pas ? Donc il n'est pas du tout en dehors de la politique. Et Jaurès, là, donc, est sur un terrain qu'il connaît bien, qui n'est pas encore, je le répète, la lutte de classe pure et dure. Elle viendra quelques années plus tard à Carmaux avec l'affaire des verriers de Carmaux, quand ce sont les verriers qui devront se reconstituer eux-mêmes un outil de travail à eux, une verrerie aux verriers, mais qu'ils seront obligés d'aller faire à Albi. Et donc, l'affaire de Carmaux en 1892, qui verra la première élection de Jaurès, c'est au fond une extension des conquêtes de la République.
Oui, parce qu'il est scandalisé parce que cet élu du suffrage universel, qui est mineur, Calvignac, est licencié de cette société, de ces mines, parce qu'il va trop souvent à la mairie, beaucoup plus qu'à la mine. Mais cela dit, il s'intéressait déjà, Jaurès, à la condition ouvrière. Il voulait à la Chambre une véritable législation du travail, la création de caisses de retraite ouvrières. Refuse la violence, hein, malgré tout. Il est hostile. Par exemple, quand les grèves se déclenchent, il essaye d'intercéder entre les grévistes, justement, et l'armée qui a été envoyée à Carmaux.
Tout à fait, mais Jaurès, dans un temps particulièrement violent et relativement sauvage, où l'armée escalitait, l'armée de la revanche, l'armée dont la mission ne devait être qu'au fond de nous protéger de l'abominable allemand et de nous reconquérir l'Alsace-Lorraine, l'armée intervient directement, parce qu'on n'a pas d'autres forces de l'ordre assez efficaces encore, l'armée intervient directement dans les grèves. Et donc ces années 1890 et 1900 sont très dures, avec des morts qui restent sur le pavé, ici ou là, avec des balles de Lebel qui ont été tirées. Jaurès a toujours refusé ça. Au nom de ce qu'il considère être l'humanité et le rapport des hommes entre eux. Et il hait la violence, y compris la violence de la grève, contre ceux qui prônent la grève générale, la grande insurrection, le grand soir. Il a toujours été très hostile.
Alors il va se battre donc pour la réintégration du maire socialiste de Carmaux, Jean-Baptiste Calvignac, qui va finalement être réintégré, il va obtenir gain de cause, qui va être réintégré en octobre 1892, 3 mois donc après son licenciement par le marquis de Solages. Ce marquis qui démissionne de son siège de député.
Et provoquant... il a fait la gaffe de démissionner, c'est vrai.
Ouais. Alors justement, du coup, Jean Jaurès en profite, pose sa candidature, ou plutôt on lui demande d'être candidat, sous l'étiquette socialiste. On écoute un autre extrait du film de Jean-Daniel Verrègue, avec toujours Philippe Torreton dans le rôle de Jaurès.
En haut comme en bas, l'ordre social actuel ne fait que des esclaves, car ceux-là ne sont pas des hommes libres, qui n'ont ni le temps ni la force de vivre pour les parties les plus nobles de leur esprit et de leur âme. La République doit devenir démocratie sociale. C'est pour cet idéal que luttent les mineurs de Carmaux. Ma solidarité avec eux est donc totale, politique, républicaine et socialiste.
Républicain, je savais que vous l'étiez, mais socialiste, c'est nouveau.
Peut-être. Au fond de moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours été. Disons qu'avant, c'était implicite, et que maintenant, c'est explicite.
Pour la liberté ! Bravo ! La République sociale ! Ouais ! Le socialisme ! Ouais ! Et avec quoi, Jaurès ?
Sera donc élu député de Carmaux en janvier 1893 sous l'étiquette socialiste. C'était quoi le socialisme de Jaurès, Jean-Pierre Rioux ?
Une grande question. Le socialisme de Jaurès, c'est d'abord une suite de la République. Jaurès pense que en France, dans ce pays qui a fait 89 et qui a pris la Bastille, on aura une forme originale du socialisme. Il se trouve qu'aussi les forces ouvrières sont très faibles en France. Bah, les syndicats sont faibles, la mutualité, à la différence du travaillisme en Grande-Bretagne ou la différence de la social-démocratie en Allemagne, c'est-à-dire l'organisation autonome des ouvriers entre eux, l'assistance, le développement, la lutte de classe, la grève. Et en France, quelque chose de relativement atténué. Parce que l'espoir, y compris l'espoir ouvrier chez les ouvriers, c'est à travers le suffrage universel et la République enfin imposée, c'est la République, la France est le seul grand État, la seule grande puissance qui à l'époque soit une République. Par rapport aux monarchies environnantes. Donc, il y a eu, je dirais, une attraction républicaine du socialisme, au départ.
Oui, pour lui, il ne distingue pas la République et le socialisme. Non, ce que font beaucoup de socialistes. Pour eux, la République, c'est la République bourgeoise,
exactement.
Etc.
Bon, alors tout ça se verra au temps de l'affaire Dreyfus, se révélera au temps de l'affaire, lorsque il faudra bien convenir que, après tout, la République bourgeoise a du bon.
Autre débat aussi, on dit qu'il était réformiste, alors que beaucoup de socialistes étaient révolutionnaires, Jean-Pierre Rioux.
Oui.
Lui, il préfère des réformes graduelles allant vers le socialisme.
Exactement, il pense qu'il y a un déroulement de la République en socialisme qui se fera par étapes et avec toujours contrôle très très strict par le suffrage, par l'élection, par le mandat. et non pas par la rupture révolutionnaire dans la rue ou ailleurs. Bon. Il se trouve que là, cette conception-là se heurte à la fois à une conception plus autoritaire et plus idéologique de ce que doit être le socialisme sur modèle allemand et sur modèle de la social-démocratie allemande qui triomphe à ce moment-là dans l'ensemble de l'international socialiste. Bon. Et là, il s'oppose notamment à Jules Guesde.
Alors oui, justement, parce que vous dites qu'il triomphe, la social-démocratie allemande triomphe, c'est un oui. immense parti socialiste.
Oui, elle triomphe même en France en 1905.
Mais elle triomphe parce qu'elle a réalisé son unification. Or, c'est ce qui sera le grand rêve de Jaurès en France. Parce qu'à l'époque, quand il est élu, il siège à l'Assemblée sous l'étiquette socialiste, avec un programme de Jules Guesde, qui était la figure la plus connue du socialisme à l'époque. Mais en réalité, ce socialisme est divisé très profondément. En secte, comme le disait Jaurès.
Oui, il y a une multitude de groupuscules sectaires. Il faut quand même savoir que les socialistes en France considèrent en 1893 qu'ils ont acquis une grande victoire électorale lorsqu'ils ont dépassé le cap de 1% des suffrages.
Oui. Hein,
il y a une multitude d'adjonctions de sectes, tout simplement parce que à la fois il y a les formes révolutionnaires des choses depuis 1789 dans ce pays, et aussi parce que les ouvriers, tout seuls, sont en train d'essayer d'inventer un mode français particulier de révolution où le parti et les sectes n'ont rien à voir. Ça s'appelle le syndicalisme révolutionnaire, qui aura un texte tout à fait extraordinaire, la charte d'Amiens en 1906, un an après l'unification socialiste, avec beaucoup de guillemets, et qui expliquera, écoutez, nous, on va faire la révolution tout seul, tranquille, sans se soucier des partis et des sectes.
Exactement.
Jaurès a compris ça. Il a compris qu'il fallait, en quelque sorte, biaiser et inventer quelque chose de parfaitement original, très accroché à la République, pour éviter à la fois la dérive révolutionnaire et pour éviter aussi la dérive, je dirais, du marxiste pur et dur avec une grosse et forte idéologie d'État.
Parce que les ouvriers font beaucoup plus confiance, au fond, au syndicalisme et à la...
Et à eux-mêmes, et au bord du travail.
Qu'à ces multiples, je les cite, vous les citez, Jean-Pierre Rioux, hein, il y a donc le Parti ouvrier français de Jules Guesde, il y a les blanquistes, il y a les possibilistes de Paul Brousse, il y a un Parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean Alleman, il y a les socialistes indépendants avec Alexandre Mirand, qui d'ailleurs préside à l'Assemblée nationale le groupe socialiste, c'est le seul endroit où ils se retrouvent ensemble. Et puis alors Jaurès, malgré tout, se distingue très vite. Dès qu'il est élu député socialiste en 93, il se distingue grâce à ses talents d'orateur, et notamment qu'il va mettre au service d'une cause dans laquelle il va engager les socialistes. C'est évidemment, nous sommes à la fin du 19e siècle, c'est l'affaire Dreyfus. Cela dit, les socialistes, ils sont entrés très en retard dans cette affaire Dreyfus. Au début, je crois, Jules Guesde disait, ça nous intéresse pas, c'est une querelle de bourgeois.
Oui, Jaurès a joué un rôle très important dans l'affaire Dreyfus, d'abord en... Je dirais en ayant un œil de plus en plus critique sur ce qu'était au fond l'atonie des socialistes, qui considéraient, c'est vrai, que bon, c'était une affaire d'officiers bourgeois condamnés plus ou moins justement, mais peu importe, et que de toute manière le prolétariat n'avait rien à gagner à défendre un bourgeois. Bon, Jaurès intervient tard, jusqu'en janvier 1898, il collassait à cette espèce de raisonnement médiocre. Ajoutez-y que parfois, il se trouve que Dreyfus étant juif, on peut trouver des relents d'antisémitisme assez forts dans ces milieux socialistes.
Mais même chez Jaurès, vous citez cette phrase extraordinaire. Vous citez, je vous coupe, Jean-Pierre Rioux. Ça, c'est Jaurès qui parle. On a surpris un prodigieux déploiement de la puissance juive pour sauver l'un des siens. Dreyfus livrait les documents secrets pour de l'argent, voilà tout. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est Jaurès qui deviendra Dreyfusard, qui va défendre ardemment Dreyfus. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant le retard qu'a mis le socialisme français avant de défendre Dreyfus.
Donc, dont acte, et ensuite, donc, Jaurès. Et ça sera pour lui une évolution extrêmement importante que ce dreyfusisme, dans lequel il n'entre pas comme Zola, je dirais, pour défendre un juif, hein, et par refus de l'antisémitisme prioritairement, mais pour, je dirais, montrer au peuple de France que s'il veut être fidèle à cette révolution originelle, s'il veut être fidèle au socialisme même, il faut qu'il se batte pour la vérité et la justice. Mmh. Bon, et ça, ce sont des mots-clés pour Jaurès. Quelles que soient les circonstances, justice et vérité sont vraiment les mots décisifs pour lesquels il faut se battre, qu'on soit bourgeois ou prolétaire.
Et là, son rôle a été essentiel à lui.
Son rôle a été tout à fait essentiel, temporaire, puisqu'après les choses ont repris leur cours de division et de difficulté. Mais il y a compris aussi que, puisqu'il défend la vérité, même la vérité piétiner chez un bourgeois et chez un officier de surcroît. Ce socialisme qu'il veut ne sera jamais un socialisme d'État, ne sera jamais un socialisme de raison d'État. Il sera jamais un embrigadement. Ce sera toujours un engagement et une adhésion au vrai et au juste.
Alors, son grand rêve, et celui d'ailleurs de beaucoup de socialistes, c'est l'unité. C'est vrai qu'il pense en permanence à ce parti, à cette social-démocratie allemande de Liebknecht, qui est un parti extrêmement puissant. Il rêve de le faire pour la France, de faire la même chose en France, de réunifier les socialistes. Ça, c'est vraiment... En quoi peut-on dire qu'il est l'artisan, justement, de cette réunification qui va se produire, qui s'est produite il y a 100 ans tout juste?
Jaurès est un grand unitaire, je dirais, d'abord philosophiquement. Jaurès est philosophe, il est métaphysicien, c'est un grand intellectuel. Il pense qu'il y a une unité intrinsèque entre le réel, l'idéal, le monde, les hommes, enfin, bon, et Dieu même, éventuellement. Bon. Alors, ceci posé, il accepte beaucoup de choses, venant des guédistes, venant de l'international socialiste, il avale beaucoup de couleuvres, au nom précisément de cette unité dont il pense qu'elle est nécessaire pour le mouvement socialiste, comme pour tout le reste, finalement. Bon. Et c'est donc sans grande difficulté qu'il accepte ce que j'appelle dans le livre des oukases, finalement, de l'international socialiste, qui à un moment, à partir de 1904, voyant la division chronique ou les faibles effets de l'unité encore chez les socialistes français, l'international socialiste tape sur la table et dit, écoutez, mes enfants, chers camarades, il va falloir songer à
au
passer
fond,
autre
c'est
chose.
Les socialistes étrangers sinon, qui ont poussé les Français à se réunir.
Sinon, dans l'international, vous allez toujours rester ridicule, fragmentaire et tout petit ton, hein, alors que nous sommes les gros colosses et les gros molosses de l'international.
Et c'est ainsi donc qu'est né l'ancêtre de l'actuel Parti Socialiste, la SFIO, la section française de l'Internationale Ouvrière, créée par Jean Jaurès, entre autres, il y a tout juste 100 ans au congrès socialiste qui se tenait à Paris du 23 au 26 avril 1905.
Avec Rosa Luxembourg, Liebknecht et Van der Velde, nous allons assister demain à Paris à un véritable miracle. Les socialistes français, rois de la division, spécialistes des divergences et des oppositions, vont enfin s'unir. Que la démocratie soit la règle au sein de notre mouvement. Nous avons tout lieu de nous en réjouir. L'unité implique le débat. Et je peux vous dire que depuis 12 ans, les débats n'ont pas manqué.
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Et c'était bien sûr Jacques Brel pour qu'on détuie Jaurès, Jaurès qui en 1905 réalisait l'unité d'un mouvement socialiste français assez faible. D'ailleurs, vous dites que ce congrès, il y a 100 ans, n'a pas soulevé les foules à l'époque. Le SFIO qui était né de ce congrès n'était pas très important. Cela dit, Jaurès va y jouer tout de suite un rôle considérable, notamment grâce à son journal, qui n'est même pas le journal officiel d'ailleurs de la SFIO, qui est l'Humanité, Jean-Pierre Rioux.
Dans le rôle considérable et unité, et puissamment unité, profondément unitaire de Jaurès, tient pas tant à sa place dans le parti, dans les SFIO, où il occupe jamais que des strapontins. Hein. Il n'a jamais cherché à maîtriser, à gérer l'appareil. Hein. Il est toujours resté très indépendant dans tout ça, intellectuel, grand orateur, parlementaire, etc. Non, c'est d'abord la force de son journal, l'Humanité, où tout le monde peut écrire. Ce qui n'est pas le cas du journal officiel de la SFIO, qui est guédiste, hein, et où les syndicalistes révolutionnaires, les gens de syndicats n'ont pas droit à la parole. Hein. Dans l'Humanité, oui. Et dans tous les enjeux qui se présente dans ce fichu monde à partir de 1905 jusqu'à la catastrophe de 14, Jaurès dira toujours, il faut en parler, il faut essayer de trouver une solution commune. Voilà.
Catastrophe de 14 qui sera le dernier grand combat de Jaurès, enfin plutôt avant, c'est-à-dire cette guerre qui s'annonce. Il s'efforce de l'empêcher, il sera pour cette raison la première victime d'une certaine manière de la guerre de 14, assassiné le 31 juillet 1914 donc à Paris par Raoul Villain. Aujourd'hui, la place de Jaurès dans la gauche française, Jean-Pierre Rioux, et dans un parti socialiste qui est au fond le successeur de la SFIO, et qui lui, au fond, cette gauche socialiste s'est divisée. En 1920, il y a eu la rupture, les communistes s'en sont allés, et puis aujourd'hui, depuis, ne serait-ce qu'à l'occasion des élections européennes, il y a des profondes divisions. Qu'est-ce qu'il a laissé, au fond, Jaurès derrière lui?
Ben oui, Jaurès, bon, était la première victime en 1914, mais sur un échec. Le mouvement ouvrier international n'a pas pu empêcher la guerre de 14, c'est clair. Bon, deuxièmement, il n'a pas pu empêcher la cassure qui viendra ensuite après l'émergence du communisme, et où la majorité des socialistes français choisiront la voie léniniste en 1920 au congrès de Tours. Bon. Ensuite, tous les malheurs du XXe siècle, eh bien Jaurès, la pensée de Jaurès n'a été d'aucune utilité ou de très faible utilité. Jaurès le totalitarisme, c'est une question réglée, en ce sens que l'optimisme de Jaurès, le fait de ne pas voir que le mal aussi est à l'œuvre dans le rapport des hommes entre eux et des nations entre elles, eh bien, il a été cruellement désavoué par tous les totalitarismes. Il se trouve que peut-être aujourd'hui, et pas seulement sans doute chez les socialistes, mais chez tous les républicains, chez tous les autres, y compris tous ceux qui ont des difficultés avec la politique, si je puis dire, mais qui cherchent un peu d'au-delà, qui cherchent un peu de vrai, qui cherchent un peu de justice dans ce bas monde, une espèce de pensée du jeune Jaurès serait peut-être intéressant à regarder, parce que c'était un type qui nous disait au fond qu'il faut marcher. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de lui, si nous ne pouvions pas marcher, chanter et délirer même sous les cieux, respirer les souffles et cueillir les fleurs du hasard, nous reculerions.
Merci Jean-Pierre Rioux. Je rappelle, pour en savoir plus, que vous êtes l'auteur de la biographie, une belle biographie de Jean Jaurès qui vient d'être publiée aux éditions Perrin. À lire également Les grandes batailles de la gauche de Jaurès à Mitterrand, le dernier numéro du hors-série Les collections de l'histoire en kiosque jusqu'en juin. Et puis enfin, le film dont vous avez pu entendre des extraits, le téléfilm Jaurès, la naissance d'un géant de Jean-Daniel Verrègue avec Philippe Torreton. Dans le rôle de Jean Jaurès, un beau film qui sera diffusé ce soir sur France 2 à 20h55. Ces références sont...